Que fait la politique à la littérature ? C'est l'heure de Tambouille, la série qui émulsionne engagement et création. De jeunes autrices issues du Master de création littéraire de Paris 8 vous proposent des récits suivis de conversations autour de la ruralité, les transclasses, le tofu, Mbappé, les ellipses, le mur de Planck, les plats préparés, l'accouchement, les archives, les paysannes, le...
Dans cet épisode, nous allons écouter l'histoire de Yvan Berquier, qui parle de ce qu'on documente, de ce qu'on archive, à la fois dans le travail artistique, mais aussi dans les mémoires collectives. Comment et pourquoi choisit-on ce qu'on raconte ?
Dans l'essai « Vénus en deux actes » qu'elle consacre à l'insuffisance de récits africains contemporains traitant de l'esclavage, Saïdia Hartmann évoque la violence de l'archive. Ce concept, également appelé « silence de l'archive », illustre une douloureuse vérité. Il arrive que des récits soient détruits, et il arrive qu'ils ne soient même pas prononcés. Dans les deux cas, c'est d'un vide immense dont souffrent irrévocablement nos histoires collectives.
Lorsque je lis le livre « Dans la maison rêvée » de Carmen Maria Machado pour la première fois, c'est presque par hasard. Je suis à Tanger, où je rends visite à l'homme dont je tombe amoureux, et je ne peux plus le reposer. C'est le récit, autobiographique et théorique, de la relation de l'autrice avec une femme qui s'avère violente, cruelle, inconstante, terrifiante, abusive, mais que la narratrice n'arrive pas à quitter, tout inconsciente qu'elle est que la violence conjugale peut s'immiscer aussi dans les Édens lesbiens. Personne ne l'avait prévenue, elle n'en avait jamais perçu le moindre écho. Je lis ce livre à une période où je n'écris pas beaucoup. J'attends patiemment que l'inspiration revienne, mais j'ai le sentiment d'avoir fait le tour, au moins pour l'instant, et je ne peux qu'attendre de vivre de nouvelles histoires pour pouvoir les documenter. C'est là le rapport que j'entretiens au monde depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ce besoin de laisser une trace, de partager mon expérience, pour que peut-être, un jour, celle d'autrui lui soit moins lourde. Dans le podcast Sonic Symbolism, sorti en 2022, l'artiste Björk revient sur chacun des 10 albums de sa carrière de chanteuse. À travers les éclats de voix et les scansions, les textes nébuleux et les expérimentations sonores, les instruments inventés et les applications mobiles, les clips et les robes, à travers les succès et les scandales qui ont jalonné ses 30 années de création, elle résume l'intention première derrière sa démarche artistique de cette façon singulièrement simple, documenter sa vie. On retrouve la même base de travail chez de nombreuses artistes, telles que Sophie Kahl, Marina Abramovic, Nan Goldin ou Patti Smith. Qu'est-ce qui vient en premier ? Le besoin d'enregistrer ce qui risque autrement d'être perdu à travers le temps qui passe ? Ou la simple envie de créer, laquelle se base alors sur ce qui est à sa disposition, c'est-à-dire les épisodes de la vie de l'artiste, comme autant d'entrées dans un journal intime crypté. Ces deux mouvements sont-ils dissociables ? Björk n'évoque jamais la tentative d'attentat largement médiatisée qu'elle a subie. S'agit-il de pudeur ? Ou est-ce que la violence a perdu en force toutes ces années après, puisqu'elle ne l'a jamais archivée dans son travail ?
Quand j'étais plus jeune, je croyais que l'essai confessionnel à la première personne allait nous sauver. En tant que femme, il apparaissait comme le seul moyen pour forcer le monde à comprendre nos plaintes, nos peurs et nos besoins, pour passer l'information et normaliser l'expérience. C'était plus qu'un genre pour beaucoup d'entre nous, c'était une religion. Souvent, cet espoir a été utilisé comme une arme par un monde qui n'était pas encore prêt pour une extase, une peine et une rage féminine aussi flagrantes. Donc je sais pas si c'est révélé être la clé de la libération. Beaucoup des vieux piliers du genre sont passés à autre chose, mais j'ai toujours là. Ce qui m'a réellement libérée, c'est de réaliser que je pouvais entrer en empathie avec des personnages d'une façon qui faisait que même la fiction pouvait sembler réelle.
Léna Denham, post Instagram, 2022. Quelques années après le décès brutal de mon père, je raconte l'histoire compliquée de mon deuil. Je ne parviens pas à encombrer son récit du vernis de fiction qu'avaient revêtu mes textes précédents. Lorsque j'envoie ces 300 pages à ma tante, elle les lit d'une traite, avant de m'assurer « Tu seras heureux, un jour, d'avoir écrit ça. Ce sera précieux, à 40 ou 60 ans, de relire ce que tu as vécu à 23. » Je reviens à la fiction ensuite, mais les quelques amis qui me lisent depuis toujours expriment une sorte de malaise. C'est de plus en plus difficile de ne pas me voir, d'imaginer qu'il s'agit d'autre chose que d'une écriture personnelle. Le ver est dans la pomme. Je rapporte à l'écrit toutes les expériences de ma vie. J'archive mes déceptions amoureuses, mon entrée dans le monde professionnel, la peur de la mort et la mort de mon père, ma rencontre avec diverses théories sociologiques, mon rapport à la sexualité, à l'amitié, à la famille. J'ai en tête ce que m'a dit ma tante. J'ai hâte qu'arrive ce jour annoncé de la relecture, voire de la réécriture.
Initialement, j'avais l'intention d'écrire quelques mots au sujet du roman et de la vision que j'en ai presque 20 ans après. Puis je me suis dit que la meilleure façon de discuter du roman serait peut-être en fait de le rallonger. J'ai beaucoup changé depuis 1969 et le monde aussi a beaucoup changé. Je suis plus bienveillante, le monde ne s'est pas arrangé et les personnages de Love se rapprocheraient aujourd'hui non sans appréhension de l'âge mûr, cet âge dont ils croyaient qu'il ne surviendrait jamais, convaincus que le monde finirait avant.
Angela Carter, dans Love, 1971, post-face, rédigé en 1987. À la lecture de « Dans la maison rêvée », je me fragmente. Je suis Carmen, personnage décrit page 124 comme une grosse femme à la race indéterminée, la vingtaine, se tient très mal, elle tape sur son ordinateur, bien que je ne partage avec elle que les deux dernières de ses caractéristiques. Je suis Carmen Maria Machado, autrice sortie de l'AOA's Writer's Workshop. Je suis moi, en train de retrouver ce rare sentiment d'excitation, de terreur, de fascination, de vulnérabilité et de délice qui vient avec le fait de tomber en amour d'un livre ou d'un homme. Je suis moi, 10 ans en arrière, la première fois que je couche avec un garçon que j'appelle mon amoureux. Et bientôt, je suis également moi qui tape sur son ordinateur, non plus dans l'appartement, mais au rez-de-chaussée, dans l'atelier d'artiste de mon amant, les sourcils froncés. Si je me fragmente ainsi, c'est parce que dans le récit, je reconnais quelque chose de moi, quelque chose que j'avais passé sous silence.
Il y a une devinette quechua qui dit « El que me nombra me rompe. Celui qui me nomme me brise. » La solution, bien sûr, c'est le silence. En vérité, quiconque sait ton nom a le pouvoir de te briser.
C'est en lisant Dans la maison rêvée que je réalise combien je n'ai pas tout raconté. Comment l'aurais-je pu ? Ce qui arrive sur la page n'est qu'une fraction infime de l'expérience. Pour écrire tout ce qu'on vit, il faudrait ne plus vivre. Et alors, qu'aurait-on à écrire ? Ce livre me ramène jusqu'au passé le plus rejeté, qui dès lors exige de rejoindre l'archive.
Ce thème de l'effondrement, cette notion que parfois, quand les gens craquent, c'est une façon de guérir, et du rejet par le moi intérieur des fausses divisions et dichotomies, a bien sûr été traité par d'autres et par moi-même depuis lors. Mais c'est ici, à l'exception d'une nouvelle ici et là, que j'ai pour la première fois écrit sur ce thème. Et c'est donc ici, plus rude, plus proche de l'expérience, avant que l'expérience se soit développée en pensée et en concept, plus précieux peut-être, parce qu'il s'agit de matière plus brute.
Doris Lessing, Le Carnet d'or, 1962, préface, 1971. Dans l'atelier, je tape sur mon ordinateur un document que je nomme l'histoire.
Un jour, je décide de ne plus raconter cette histoire. C'est un jour d'avril, ensoleillé et glacial, où Carolina sort du théâtre pour me consoler. Et quand elle comprend que je ne pleure pas mon père qui vient de mourir, mais toujours cette histoire, elle me dit qu'elle rentre. Ce sujet de chagrin ne justifie plus d'avoir froid. Ce jour-là, je me dis que j'en ai trop dit, que trop d'amis ont dû entendre l'histoire, jusqu'à éroder la plus douce de leur patience. J'érige une règle, je réponds bien aux règles. Comme à un enfant, je m'interdis. Je m'interdis de prononcer le nom, de mettre à jour, d'informer. Je fais de l'histoire un tabou. Bientôt, je rencontre de nouvelles personnes. Bientôt, seuls quelques membres de mon entourage connaissent l'histoire. Encore moins s'en souviennent. Le silence peut grandir, le secret s'enfoncer. Des années après, ma thérapeute et moi remarquons qu'en 4 ans et 7 mois, à elle qui sait de moi jusqu'à ma plus obscure folie, je n'ai jamais raconté l'histoire. Je l'ai parfois évoquée, contexte sans lequel une béance attirerait les questions. Je l'ai cachée en pleine vue, mais je ne l'ai pas dite. La séance suivante, je lui raconte l'histoire. Je ne sais plus quand je l'ai narrée ainsi en entier à quelqu'un qui n'en avait jamais entendu parler. Elle me laisse parler pendant 1 heure et à la fin, me pose une unique question. Pourquoi êtes-vous resté ? Aujourd'hui, je raconte l'histoire parce qu'elle est revenue. Quand j'y pense, pas d'amour, pas de haine, de colère ni de remords, pas de peur, même pas de peur. Un peu de tristesse parfois et puis je me souviens que l'histoire a permis les autres. Je sais les réalités alternatives, les voyages dans le temps. Si on pouvait effacer un chagrin du passé, qui sait quel bonheur ultérieur, par réaction en chaîne, on s'exposerait à annuler. Je ne regrette aucune de mes peines, elles sont la brique du socle sur lequel je me tiens désormais, statue dansant au soleil. Pourtant, c'est alors que débute cette histoire nouvelle, autre, présente et belle, que l'histoire est revenue. Pourquoi ?
Ces pages qui jaillissent de mes doigts, pendant la première lecture de Dans la maison rêvée, parlent de ma première histoire d'amour. C'est tandis que je recommence à faire confiance, à aimer vraiment un homme, si doux, qu'aussi je repense à cette relation originelle. Je repense aux mots, aux exhalaisons, aux soupirs, aux supplications et au ciel auquel on lève les yeux. À tout ce que j'ai essayé, à tout ce que l'autre a échoué, à tout ce que nous nous sommes fait mal. L'histoire est revenue pendant ce mois de décembre resplendissant entre la Méditerranée et l'océan Atlantique, où je suis pris dans la passion de l'amour et la passion de la lecture. Elles se contredisent, elles se battent. À chaque fois que je plonge d'un air inquiet dans ces pages sombres, puis dans les miennes propres, j'abandonne mon nouveau compagnon, et lorsque je relève la tête, je porte en moi leur noirceur, et soudain, je me méfie de lui. J'ai déjà entendu ces mots. Que peuvent-ils bien cacher cette fois ? Je crois alors que la réponse à cette question tient peut-être dans l'histoire. Carmen Maria Machado réalise assez tôt, dans la réalisation de son ouvrage autothéorique, que son ambition d'inclure ses recherches sur les violences conjugales lesbiennes va être limitée par le peu de ressources disponibles. L'autrice raconte l'incompréhension par les institutions des quelques cas qui ont été portés devant la justice, l'incohérence de leur jugement, l'évitement de leur archivage. Les sources fiables ne peuvent donc pas provenir des canaux officiels, mais bien des propres récits des personnes concernées. Pourtant, force est de constater qu'ils sont rares. Carmen Maria Machado explique qu'en ce qui la concerne, elle a hésité à raconter son histoire pour ne pas donner du grain à moudre à ceux trop enclins à mettre dans le même sac. Hystérie et inversion.
J'ai grandi dans une société qui a vu le mariage pour tous passer d'une fiction grotesque à un projet plus que réaliste, puis à une loi gravée dans le marbre. Voilà plus de 10 ans que je suis ouvertement lesbienne. Pourtant, je suis mystérieusement hantée par le spectre de la lesbienne tarée. Je ne voulais pas que mon amante soit taxée d'être atteinte de maladies mentales, de troubles de la personnalité ou d'accès de colère frénétique. Je ne voulais pas non plus qu'elle agisse en permanence avec irrationalité. Je ne voulais pas qu'elle soit jalouse ou cruelle. Après toutes ces années, si je ne devais lui dire qu'une seule chose, ce serait « Mais putain, arrête de donner une mauvaise image de nous !»
C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai jamais raconté l'histoire. Je pense à ce jeune de 19 ans qui n'a jamais enlacé qu'un ou deux garçons et qui rencontre soudain un homme dont il n'arrive pas à croire qu'il puisse s'intéresser à lui, encore moins l'aimer. Et puis, quand il commence à y croire, il n'a jamais vu d'homme amoureux heureux, sauf dans les chansons d'amour de Christophe Honoré, quand à la fin Louis Garrel et Grégoire le Prince Ringuet s'embrassent sur le balcon et que le premier implore le deuxième de l'aimer moins, mais de l'aimer longtemps. Quand il commence à y croire, il n'a jamais vu d'homme amoureux heureux, seraient-ils les premiers ? Quand il commence à y croire, alors surviennent le mensonge, la tromperie, le sourire. Là, il arrive très bien à y croire. Tout est donc bien, comme chez Guibert, Dustan, Baldwin, Wilde, Hollinghurst ou Genet. Les hommes ne savent pas s'aimer entre eux. Ils se font seulement du mal. Tout cela est déjà très bien documenté.
J'explique à ma doctoresse que mes T4 ont remonté. Quand je l'avais vu la dernière fois, ils étaient bas. Mais j'étais hyper fatigué. Je venais de déménager, j'avais quitté le mec avec qui j'étais pendant 5 ans, et il menaçait de me vitrioler. Je lui dis « Le problème, c'est qu'avec le nouveau, je m'ennuie. Il ne me fascine pas. L'autre, il était fou et je l'aimais. C'est toujours le moins fou qui est fou du plus fou. Et le plus fou est fou de lui-même, apparemment. Elle me dit qu'on ne peut pas y échapper. C'est comme ça. Soit on est raisonnable et on se met avec un normal et on s'ennuie. Soit on se met avec un fou et il veut vous vitrioler et on s'amuse. C'est comme ça.
Guillaume Dustan, Dans ma chambre, 1996. À chaque fois que j'ai décidé de ne pas raconter l'histoire, j'ai choisi de ne pas mettre au jour le contexte, de ne pas expliquer que quand on a commencé sa vie dans le rejet et les coups, en vertu de quelque chose qu'on n'a pas choisi et qu'on pensait être le seul à vivre, alors, si on rencontre quelqu'un qui nous chasse cette solitude, on n'a pas la présence d'esprit de demander plus que ça. À chaque fois que j'ai décidé de ne pas raconter l'histoire, c'était par volonté de ne pas enregistrer ce qui a fait trop mal, qui a trop déçu, amené trop de honte. Ne pas y croire, ne pas en parler, ne pas l'ancrer dans les mémoires collectives, ne pas expliquer.
Parfois, la preuve n'est pas attachée à l'archive. On ne la juge pas assez importante pour être enregistrée. Ou, si elle l'est, pas assez importante pour être conservée. Parfois, la destruction pure et simple est délibérée. J'en veux pour preuve la correspondance sans équivoque entre Eleanor Roosevelt et Lorena Hickok, incinérée par cette dernière à cause du contenu explicite. À n'en pas douter, terriblement érotique et lesbien, au regard des lettres qui ont survécu aux flammes. Je brûle de te voir, Eleanor Roosevelt à Lorena Hickok, le 17 novembre 1933.
Je repense au moment de l'histoire où, au milieu de la nuit, j'ai effacé tous les mails, jeté tous les cadeaux, brûlé toutes les lettres. Le moment où, moi qui me répète toujours tout en boucle pour me souvenir, je me suis permis de ne pas garder. Je me suis condamné à peut-être oublier. Mon amie Lucie avait haussé les épaules. Tu aurais peut-être été content un jour de pouvoir te souvenir du fait que tu as été aimé. Nous ignorions encore que l'amour n'avait pas cette définition. J'ai exclu de mon archive ce qui était trop empoisonné pour être enregistré. C'est lorsque je repense à ce moment, parmi les pages que j'écris à Tanger, que je perçois l'amalgame injuste que je suis en train de commettre entre le passé douloureux et le présent inoffensif. L'histoire m'enferme dans une vision de l'amour aussi malsaine qu'obsolète, alors que naît pour moi une romance douce et bonne. J'éteins l'ordinateur, je quitte l'atelier, je remonte dans la chambre et dans les bras de mon amoureux. Pour sauver l'avenir, j'arrête avec l'histoire. Je la remets dans sa boîte, ses limbes, sa poubelle.
Le silence de l'archive fait que certains discours, et leurs nuances, sont engloutis par l'histoire. On ne voit que le sommet de l'iceberg, la partie sensationnelle qui attise l'intérêt du plus grand nombre. Les témoignages sur la maltraitance au sein des couples homosexuels, qu'elles soient physiques ou non, sont de même délicats à juger. Il est incroyablement difficile de trouver des récits, d'autant plus lorsqu'ils ne culminent pas dans un déchaînement de violence. Notre culture n'est pas encline à aider les homosexuels à nommer leur expérience traumatique et à leur donner un sens.
Lorsque je lis Dans la maison rêvée pour la deuxième fois, j'ai intégré un master de création littéraire qui m'abreuve de tant de références que je ne sais plus où donner de la tête. Pourtant, c'est ce livre-là qui revient entre mes mains. Cette fois, bien plus que l'histoire principale, c'est l'incipit sur l'archive qui reste avec moi.
Le théoricien queer, aujourd'hui disparu, José Esteban Muñoz, écrit que lorsque l'historien de l'expérience queer essaie de documenter un passé queer, il se heurte souvent à un gardien dépositaire d'un présent straight. Avec quelles conséquences ? Des fossés dans lesquels les individus ne se voient ni ne trouvent les informations les concernant. Des gouffres qui empêchent de se donner un contexte. Des crevasses qui engloutissent les personnes. Un silence impénétrable.
Quelques jours après, je rencontre un archiviste qui me parle de son travail. Il raconte les choix qu'il doit faire, ce que la loi l'oblige à laisser de côté, ce que lui doit définir comme ligne de ce que l'on conserve ou non. Il n'y a pas la place pour tout. Il évoque aussi beaucoup le sida, tous les morts.
Quand je suis arrivé à Paris, en 1994, tous ces artistes étaient déjà morts du sida. Je n'ai pas pu envisager d'avoir un rapport direct avec eux. Et pourtant, j'ai l'impression, aujourd'hui encore, que ce sont les gens avec qui je communique le plus.
Christophe Honoré, dans Le Monde, 17 janvier 2019. Je pense à toutes les œuvres que les morts du sida n'ont pas eu le temps de créer, et dont le germe a disparu avec eux. Je pense au monde qui serait si leurs idées avaient pu être enregistrées dans la culture commune. Je me dis que l'archive est par définition incomplète, par définition impossible et par définition enviable. Et je pense à Virginia Woolf qui présente cette utopie. Si tout le monde se mettait à écrire son expérience, nous arriverions à une sorte d'encyclopédie de l'entièreté de la vie humaine.
Je voudrais vous demander d'écrire des livres de tout genre, sans hésiter, devant aucun sujet, quelle qu'en soit la banalité ou l'étendue. J'espère que d'une façon ou d'une autre, vous avez en votre possession assez d'argent pour voyager et pour vivre dans l'oisiveté, pour contempler l'avenir et le passé du monde, pour rêvasser sur des livres et musarder au coin des rues, et laisser la ligne de la pensée s'enfoncer profondément dans l'eau du fleuve. Car je ne vous confine nullement dans le roman. Si vous vouliez me faire plaisir à moi et à des milliers de mes semblables, vous écririez des livres de voyages et d'aventures, de recherches et d'érudition, d'histoire et de biographie, de critique et de philosophie et de science.
Virginia Woolf, Une chambre à soi, 1929. Toute censure semble violente, tout refoulement semble inefficace. Si la chose l'était peut-être, l'histoire de la chose n'est pas dangereuse. Elle est simplement puissante. Je ne sais pas si viendra un jour où je déciderai de raconter l'histoire. Je ne sais pas si ce choix m'appartient. L'histoire se raconte au moment où elle le décide, d'une manière ou d'une autre. Il nous appartient alors de l'accueillir et de l'inclure dans l'archive. Cela reste le meilleur moyen pour comprendre, montrer et voir. Et si l'histoire ne revient pas, pas d'inquiétude, nous pourrons toujours en raconter une autre.
L'archive complète est une chimère. Elle est seulement possible en théorie. Mais rien ne nous empêche d'essayer.
Alors nous venons d'écouter l'histoire de Yvan Berquier et on va en discuter avec
Céline.
Et moi c'est Nacera. Merci Yvan pour cette lecture. Et ce texte, il nous donne une conception d'à la fois l'écriture personnelle mais aussi la question de l'archive, le fait de documenter sa vie, de documenter les expériences personnelles de vie. Et pour cela, tu nous cites, enfin, tu traverses plusieurs auteurs, plusieurs sources, à la fois théoriques, littéraires, mais aussi qui appartiennent à la pop culture. Et tu nous donnes aussi à comprendre les différents rôles de l'archive, et notamment celui qui est d'agir sur le monde, dans le monde. Et je voulais que tu reviennes un peu sur cette notion, comment toi tu la conçois et nous en dire un peu plus sur ce que tu entends par là.
Oui, merci. Alors, c'est vrai que dans le texte, je cite plusieurs auteurs et autrices dont, a priori, c'est l'idée de base derrière leur travail de création, c'est de documenter leur vie. Et c'est vrai qu'avec Björk, ça m'a vraiment marqué parce que je trouve qu'on passe beaucoup de temps, quand on parle de Björk, à parler de... du côté expérimental de son travail ou bien de son personnage médiatique. Et en fait, d'entendre ce podcast et de l'entendre dire « Ah ben moi, je vais continuer à faire ça toute ma vie parce qu'en fait, c'est ma façon de documenter ma vie, de pas oublier ce qui m'arrive. » Et elle, en fait, c'est tout ce qu'elle disait du moteur principal de son travail. Ça m'avait vraiment marqué. Et c'est en réfléchissant à ça que j'ai aussi... Je pense penser au conseil qu'on donne souvent aux écrivains, écrivaines, qui est d'écrire sur ce qu'on connaît. Et je pense qu'il y a quelque chose de politique là-dedans, parce que ça veut dire on écrit, on parle de sa place, on ne parle pas à la place de quelqu'un d'autre. on parle de ce qu'on, de son expérience, parce que c'est ça qu'on a à sa disposition. En fait, on écrit forcément sur ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est ce qui nous constitue, c'est nous. Et c'est un peu ce qu'on disait aussi dans l'épisode du texte de Céline, c'est-à-dire que tout ce qu'on traverse, en fait, ça fait partie de nous. Et c'est pour ça que aussi, à côté, dans d'autres projets actuellement, je travaille sur la différence qu'on fait entre fiction et non-fiction, et peut-être aussi l'absence de différence qu'il y a à ça, parce qu'en fait, encore une fois, tout ce qu'on vit, ça nous constitue, que ce soit de la théorie, de la citation, de l'expérience personnelle. En fait, je pense, et c'est ça, ça dont je voulais parler dans ce texte, le choix, il est plutôt à l'endroit de qu'est-ce qu'on décide de conserver, qu'est-ce qu'on décide de raconter. Parce que ce qu'on décide de raconter, bah, d'une certaine manière, on le sauvegarde. Donc notre choix, il est à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on garde, ou qu'est-ce qu'à l'inverse, on essaie plutôt de mettre de côté, et est-ce que ça marche quand on essaie de le mettre de côté ?
J'ai l'impression quand même qu'il y a aussi toute la complexité dans ton texte de ne pas documenter, mais ça ressurgit, ou faire face à ce qui ressurgit, et en fait aussi décider de l'oubli. Donc j'ai l'impression qu'il y a tous ces mouvements, que tu évoques tous ces mouvements-là dans ton texte.
Ouais, tout à fait. Même en fait, l'idée de base de ce texte, qui est finalement quelque chose que j'ai pas conservé, en tout cas dans cette version-là, c'était quand j'ai réfléchi à moi, qu'est-ce que j'avais pu produire dans ma vie comme texte un peu théorique. Et en fait, c'est ma thèse de médecine en psychiatrie. Et le fait que c'est seulement quand j'avais fini d'écrire ma thèse que je me suis rendu compte que j'avais écrit un truc, j'avais choisi un sujet hyper intime. Voilà, ça parlait de la santé mentale des adolescents homo et bisexuels, et notamment des conséquences sur la santé mentale, du harcèlement, ce genre de choses. Et vraiment, moi, j'ai pas du tout fait le lien. Et c'est vraiment quand je l'ai terminé que je me suis dit, oh ben mince, en fait, ce truc que j'ai vécu et qu'en fait, j'avais pas nécessairement décidé de raconter dans un projet de littérature, en fait, est ressorti dans un projet, certes d'écriture, mais d'écriture scientifique où je parle pas du tout de moi, je dis pas du tout la première personne, mais en fait... En le relisant, oui, je me suis rendu compte que c'est ça. Moi, je ne crois pas du tout à la question de la catharsis par l'écriture. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent ça, qui espèrent qu'en écrivant un truc douloureux, ça va sortir et du coup, ça va être en dehors de soi, ça va être dans le texte et du coup, ça n'existera plus dans notre esprit. Ça, je pense que, en ce qui me concerne, je ne pense pas que ça fonctionne. Après, je pense que l'écriture... elle nous permet évidemment de mettre en mots ce qu'on a vécu et donc, d'une certaine manière, de nous accompagner dans la compréhension de ce qui s'est passé, dans la redéfinition de notre perspective par rapport à ça.
Pour poursuivre ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a aussi un phénomène de transformation, c'est-à-dire que dans cette conception de documenter sa vie et d'archiver certaines expériences personnelles, la réception auprès des lectrices a un pouvoir. C'est-à-dire que côtoyer ces textes peut nous transformer. Et je pense qu'il y a cet aspect-là dans ce que tu viens de dire. Et en particulier, je pense au lien que tu as avec le texte de Carmen Maria Machado, où on sent que ça, c'est un texte qui t'a accompagné et qui a sûrement forgé aussi en partie ta perception de l'écriture. Et aussi, je voudrais te faire parler sur ce lien avec Carmen Maria Machado et aussi ce sujet du choix de ce qui ne pourrait pas faire l'objet d'une archive, d'un document, ou en tout cas dont l'archive est problématique. Voilà, par exemple, ici dans ce texte, c'est cette relation avec la violence. Est-ce que redire l'événement douloureux, redire la violence est possible? Comment? Avec quels effets? Donc, si tu peux parler de ça.
Oui, bien sûr. Ben, c'est vrai que ce livre, il m'a beaucoup inspiré parce qu'il a fait partie pour moi des ouvrages où tout à coup, je pense qu'on... tous les lecteurs et les lectrices ont pu faire l'expérience de ça, de tout à coup tomber sur un bouquin où on se dit oh waouh, là vraiment il y a quelque chose qui me parle très profondément, et ça veut dire qu'il y a quelque chose dans lequel on se reconnaît. À partir de là, moi je fais vraiment le lien avec la question de la représentation, qui est quelque chose dont on parle de plus en plus. Et tant mieux. Moi, voilà, je suis pas encore très vieux, j'espère. J'ai 33 ans. Mais c'est vrai que, voilà, comme je dis dans le texte, quand j'étais ado, je voyais pas de récits de personnes, de couples homosexuels où tout se passait bien, où c'était pas un sujet. Alors, je cite Les Chansons d'amour, le film de Christophe Honoré qui est sorti, je crois, en 2007, où là, effectivement, il se trouve qu'il y a une histoire entre deux mecs, que c'est pas le sujet principal de l'histoire au début, et puis que ça se fait, que c'est pas un problème en soi, mais je me souviens très bien de ce moment au Cinoche, avoir ça à 17 ans, et me dire « Ah, ok, donc c'est possible. » Et le texte de Machado, c'est un peu la même chose, dans le sens où elle donne à voir des choses qui jusqu'alors n'étaient pas représentées, et aussi elle parle de ça dans son livre, donc de l'importance de la représentation et du fait que peut-être toute représentation n'est pas bonne à prendre. Elle parle des tropes, donc les tropes c'est les espèces de clichés qu'on retrouve souvent dans les récits, et le fait que par exemple dans les Disney, souvent, les méchants, les personnages de méchants, ils sont, on dit queer-codés, c'est-à-dire ils ont des caractéristiques qui sont plus souvent rattachées à des personnes non hétérosexuelles ou non cisgenres. On voit que, je sais pas, Scar ou je me connais pas très bien en Disney, mais Scar ou Jafar, ils sont efféminés par exemple. Le personnage Ursula dans La Petite Sirène, il a été littéralement basé sur Divine, qui est une drag queen. Et du coup, voilà, c'est très documenté maintenant qu'en fait, les personnages qui sont homo, qui ont l'air homo dans les films, dans les livres, dans la culture, soit ils sont méchants, soit ils sont fous, parfois les deux. Et puis sinon, en fait, ils crèvent. À la fin, ils crèvent pour montrer que la société n'était pas prête pour eux, machin. Et donc, ça pose la question, effectivement, de bah, est-ce qu'on rajoute ça? Est-ce qu'on a un point où il y a suffisamment de représentation positive pour continuer à mettre de la représentation négative? Ou est-ce qu'on en est au contraire à un point où, ben non, là, on a besoin de contrebalancer en mettant de la représentation positive avant tout. Et peut-être, et c'est ce que Machado dit aussi dans le livre, et moi, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ça, le but, c'est qu'à un moment, oui, qu'on puisse aussi avoir des personnages méchants queer. Parce que, bah, évidemment, qu'il y a des personnes queer qui sont pas sympas ou qui sont méchantes ou qui ont des actions déplorables. Mais c'est toujours la question. Et donc moi, c'est aussi la question que je me pose. Et en fait, quand je décide dans un processus d'écriture personnelle de raconter mes histoires amoureuses en tant que personne homosexuelle, lesquelles je raconte? Est-ce que je raconte celles où ça s'est mal passé? Ou est-ce que je raconte celles avec qui tout se passe bien? Et je pense que ouais, il y a un poids politique dans ce choix-là.
Du coup, tu y réponds comment aujourd'hui à cette question? J'aime bien le fait que dans l'histoire, ce soit encore en suspens. J'imagine que ça va continuer à traverser ton travail, que c'est encore actuel pour toi, cette interrogation dans ton travail d'écriture ?
Oui, bah, ce que ça m'évoque, c'est que c'est qu'on se dit toujours que tout est politique, que bon, l'intime est politique, on est tous d'accord là-dessus. Parce que à partir du moment où on prend la parole, c'est politique, parce que si on prend la parole, c'est déjà qu'on a pu le faire, qu'on a eu le droit de le faire. Ça veut dire qu'on la prend depuis un endroit vers un autre endroit. Quand j'écris, je suis, encore une fois, avec tout ce que je suis. Donc, tout nécessairement est politique. Et dans mon travail, je pense qu'on ne peut pas, se morceler. Je ne sais pas à quel point on peut, pour répondre à ta question, à quel point je peux choisir ce que je décide ou non de raconter. Comme je racontais tout à l'heure, parfois, on ne veut pas raconter quelque chose. Et en fait, on le raconte d'une manière inattendue. On n'a pas envie de d'écrire sur un sujet, mais en fait, c'est celui-ci qui doit sortir à ce moment-là et on ne peut pas écrire sur autre chose. Donc, je ne sais pas à quel point ce choix-là, il m'appartient, parce que tout est articulé. Le fait que j'écris, ça informe ma façon d'être au monde, et ma façon d'être au monde, elle informe aussi le fait que j'écris. Quoi.
Moi, j'avais envie de revenir sur comment se déploie ton texte, et sur la présence de citations assez nombreuses. Donc, il y a Carmen Maria Machado principalement, mais pas que, il y a aussi plein d'autres sources. Et je me demandais comment tu avais articulé ton écriture avec ces extraits, en fait, d'autres écrits.
Oui, alors je pense qu'il y a deux choses différentes. Dès le début, je voulais parler du lien avec le texte de Carmen Maria Machado. Donc ça, c'est venu assez naturellement de pouvoir trouver les citations qui me parler, auxquelles j'avais envie de répondre, d'avoir ce travail en miroir. Et en ce qui concerne toutes les autres, moi, c'était la première fois que j'écrivais de cette manière-là. Je me suis prêtée à l'exercice aussi dans le cadre du séminaire de Lionel Ruffel dans notre cours à Paris 8 qui parlait de l'autothéorie. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est aussi l'occasion de faire ce travail d'inclure des références théoriques. Et j'ai veillé à ce qu'elles viennent de choses assez, assez différentes. Et notamment, voilà, y a la citation d'Angela Carter et celle de Doris Lessing, qui sont des préfaces ou postfaces qu'elles ont écrites longtemps après leur texte initial, avec un regard du coup sur comment le texte avait évolué, comment elle l'aurait écrit autrement. La postface d'Angela Carter, je la trouve vraiment dans Love, je la trouve vraiment hyper saisissante. Elle dit, en fait, je ne l'écrirai plus du tout comme ça aujourd'hui. Et du coup, elle dit, voilà, ça, c'était sûrement une erreur. Et donc, elle finit par essayer de corriger en donnant le futur de ses personnages. Et ça, je trouvais que c'était une démarche qui marchait vachement bien avec le texte que j'ai écrit sur quand est-ce qu'on raconte quoi, est-ce que vraiment on a le choix, et j'ai voulu aussi inclure des références un peu plus pop comme un post Instagram de Lena Dunham parce que voilà, on parle aussi beaucoup de rapport au savoir, et le savoir, il appartient pas seulement à des personnes qui se sont incluses dans un certain mode de publication depuis un certain nombre d'années, etc. Et ça m'était important, voilà, de pouvoir tout mettre au même niveau.
Eh bien, merci beaucoup, Yvan. Merci, Céline. Vous vous êtes prêtée à cette discussion et c'était un vrai plaisir de vous entendre. On va s'arrêter là et vous pourrez entendre la suite des épisodes.